Mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde. Nous sommes le jeudi 31 octobre et ça fait peur. Et oui, pour une fois, vu que c'est la période Halloween et qu'on est censé aimer les choses qui font peur, et ben j'espère que ces infos seront du goût de tout le monde. On va parler pas mal d'eau encore, de l'eau. Il en a trop tombé en Espagne et il en tombe trop ou pas assez sur la planète. On va s'intéresser évidemment aux désastres climatiques. On en parle souvent, mais là, l'actualité nous y oblige encore plus. On va parler un petit peu d'action, peut-être... pour contrebalancer ça, d'actions qui ont été menées par des groupes écologistes et un peu plus énervés, même contre des géants pétroliers qui sont ciblés comme cause principale de ces dérèglements climatiques avec notre mode de vie. Et on va aussi parler du plan vélo, bien mal barré pour l'année prochaine en France, et aussi d'eau contaminée. Je vous ai parlé de mercure dans les boîtes de thon il y a deux jours, et ben on va continuer dans notre foulée avec cette fois-ci de l'arsenic dans les eaux de Vittel. Tout d'abord, donc, un petit point sur ces inondations meurtrières qu'ont ravagé une partie de l'Espagne, notamment autour de Valence, ces derniers jours. Les opérations de recherche de victimes se poursuivent encore aujourd'hui dans le sud-est de l'Espagne, après ce qu'on a appelé les pires inondations depuis de 50 ans dans le pays, donc les inondations du siècle. Elles ont fait pour le moment au moins 95 morts et de nombreux disparus. Plus d'un millier de militaires sont déployés sur le terrain, principalement autour de Valence, aux côtés des pompiers, policiers et secouristes qui cherchent à localiser d'éventuels survivants et qui s'efforcent de déblayer les zones sinistrées. Le dernier bilan, donc je vous le disais, communiqué par les autorités, est de 95 morts à l'heure où j'ai écrit ça, donc ça a peut-être bougé déjà depuis, dont 92 dans la seule communauté de Valence, qui a été donc la plus durement frappée. Deux autres décès ont été enregistrés à côté dans une région voisine de la Castille-La Mancha et la troisième en Andalousie. Ce nombre de morts est le plus élevé depuis celle des inondations de 1973, en octobre aussi, où 300 personnes sont mortes suite à ces catastrophes. Et ce chiffre donc va augmenter encore puisqu'il y a de nombreux disparus aujourd'hui. C'est ce que prévenait en tout cas hier soir le ministre de la Politique Territoriale, Ángel Víctor Torres. Jeudi à l'aube, donc ce matin, des milliers de personnes étaient toujours privées d'électricité dans la région de Valence. De nombreuses routes sont toujours coupées alors que d'innombrables carcasses de voitures jonchent les routes. Les photos et les vidéos qui circulent sont impressionnantes. Ces routes sont elles-mêmes couvertes de boue et de débris. Selon les autorités, une des localités les plus touchées s'appelle Paiporta et on est dans la banlieue sud de Valence. C'est dans cette seule localité qu'une quarantaine de personnes ont trouvé la mort, dont une mère et son bébé de 3 mois emportés par le courant. Le président de la région de Valence, Carlos Manzón, a indiqué hier soir que les services d'urgence avaient effectué dans la journée 200 opérations de sauvetage terrestre et 70 aériennes, avec donc des hélicoptères, et il a précisé par ailleurs que les secours étaient parvenus à se rendre dans l'ensemble des zones affectées, alors que plusieurs villages sont restés coupés du reste du pays toute une bonne partie de la journée d'hier. Le ministre des Affaires étrangères française, Jean-Noël Barrot, a par ailleurs expliqué sur BFM TV avoir mis à disposition de l'Espagne 250 pompiers prêts à intervenir et puis s'inquiéter, lui, du sort donc de ressortissants français éventuellement qui auraient été touchés par ces inondations. Concernant les pluies, selon l'agence météorologique AEMET, ce sont plus de 300 litres d'eau par mètre carré qui sont tombés dans la nuit de mardi à mercredi dans plusieurs villes de cette région de Valence, avec une pointe donc à 491 litres par mètre carré dans le petit village de Chiva. C'est l'équivalent d'une année de précipitation pour vous donner c'est vraiment des seaux d'eau continus qui se sont déversés toute cette nuit-là, des fois en simplement 4 heures. La presse espagnole a qualifié ces intempéries d'inondation du siècle et commence à s'interroger sur la réactivité des autorités, puisque le message d'alerte du service de protection civile aux habitants a été envoyé mardi après 20h, alors que l'agence météo avait émis une alerte rouge dès le matin. Mais cela dit, personne ne pouvait prévoir de telles quantités, donc à un moment donné, les dispositifs en place ne suffisent tout simplement pas. La région de Valence et la côte méditerranéenne espagnole en général subissent régulièrement en automne ce phénomène de goutte froide. La gota fría, c'est une dépression isolée en haute altitude de l'air froid qui provoque des pluies soudaines et extrêmement violentes, parfois pendant plusieurs jours. C'est ce phénomène dont je vous avais déjà parlé, qui avait notamment touché une partie de l'Europe centrale, l'Allemagne et la Roumanie notamment, ça doit faire un mois ou deux maintenant, pendant l'été. Les scientifiques, en tout cas, avertissent depuis plusieurs années que ces phénomènes météorologiques extrêmes, comme les vagues de chaleur ou les tempêtes, sont à la fois de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses en raison du changement climatique. D'ailleurs, Jess Newman, qui est professeur d'hydrologie à l'université de Reading au Royaume-Uni, soulignait dans une note que ces inondations soudaines en Espagne sont un nouveau rappel terrible du changement climatique et de son caractère chaotique.
Je vous annonce la fin du monde! Ah, tout le monde va périr!
Encore vous?
Les survivants mourront de faim et de froid, ils ont la peste et le choléra!
Voyons, monsieur, rentrez vous coucher, cela vaudra mieux.
D'ailleurs, dans Libération, pour continuer ces bilans sur les catastrophes climatiques, eh bien, une étude d'attribution est publiée aujourd'hui même par le consortium de scientifiques World Weather Attribution. Et on lit que la hausse des températures planétaires a intensifié justement les 10 phénomènes météorologiques les plus meurtriers au cours de ces 20 dernières années. C'est un bilan qui s'intéresse à ces 20 dernières années, donc depuis 2004, et le changement climatique aurait ainsi contribué au décès de plus de 570 000 personnes sur Terre, un demi-million de morts à cause d'événements météorologiques extrêmes. Exactement 576 042, c'est le chiffre qui a été compté ce travail d'inventaire du WWA, le World Weather Attribution. C'est un réseau de scientifiques de renommée internationale qui étudie les effets dévastateurs de la crise climatique. Au moment donc où l'Espagne était frappée par ses pluies torrentielles et qu'elle compte ses morts par dizaines voire centaines, ce collectif de chercheurs révèle dans une étude aujourd'hui sortie donc que le changement climatique causé, rappelle-t-il, par la combustion de pétrole, de gaz et de charbon, mais aussi par la déforestation, a intensifié les catastrophes météorologiques mortifères de ces deux dernières décennies. D'après le décompte donc réalisé par ce WWA sur ces 20 ans, un décompte qu'il précise largement sous-estimé, notamment en raison de l'enregistrement partiel des décès à cause des canicules, par exemple dans de très nombreux pays, on n'est pas forcément sûr, on ne classe pas forcément les morts toujours pour différentes raisons. En tout cas, 4 des 10 épisodes les plus dramatiques sont bien des vagues de chaleur, notamment celles d'Europe pendant les années 2015, 2022 et 2023, et il faut y ajouter l'épisode caniculaire russe de 2010. Au sein de la liste figurent également 3 cyclones tropicaux qui ont frappé la région Indo-Pacifique, 2 inondations dantesques en Inde en 2013 et en Libye l'année dernière, et la sécheresse en Somalie de 2011, qui est malheureusement l'événement le plus meurtrier de ce top 10 funeste. En Somalie, pas moins de 258 000 morts, simplement pour la sécheresse. Le cyclone Nargis, lui, qui avait déferlé sur la Birmanie en 2008, dépasse la barre de la centaine de milliers de morts. Et si on compte les 3 vagues de chaleur les plus meurtrières qui ont sévi sur l'Europe, le bilan est d'environ 95 000 décès. Et d'ailleurs, à chaque fois, la France fut durement touchée, notamment en 2015, où le pays a compté 3275 morts. Alors que la planète Terre devrait franchir la limite symbolique des plus 1,5 degrés Celsius de réchauffement au milieu des années 2030, c'est-à-dire dans pas bien longtemps, rappelle ce document, et que le programme des Nations Unies pour l'environnement prévoit maintenant une hausse de 3,1 degrés Celsius à la fin du siècle, par rapport à l'ère pré-industrielle, vu que les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre ne réduisent pas beaucoup, ils ont d'ailleurs atteint des records en 2023, et bien tous ces chiffres amènent l'équipe du WWA à insister sur l'urgence de remplacer les combustibles fossiles par des énergies renouvelables. Il y a de moins en moins de risques météorologiques que l'on peut qualifier de purement naturels, d'ailleurs, alertent ces chercheurs. Nos travaux et la littérature scientifique montrent aujourd'hui que pour chaque tonne de charbon de pétrole ou de gaz brûlé, toutes les vagues de chaleur deviennent plus chaudes et que l'écrasante majorité des fortes précipitations, des sécheresses et des cyclones tropicaux deviennent de plus en plus intenses. Si on regarde ces dernières semaines, hein, et qu'on oublie cette décennie terrible là, qu'ils ont étudiée, on peut se rappeler que la Terre a connu toute une série d'événements extrêmes, hein, des tempêtes en Europe de l'Ouest et en Asie du Sud-Est, des déluges en Afrique centrale et dans la bande sahélo-saharienne, des ouragans aux États-Unis, des pluies torrentielles au Népal, en Inde ou encore chez nous, à 10 jours en tout cas du début de la COP29 climat. C'est donc la 29e conférence des parties qui ont signé la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ce qui représente 197 États plus l'Union européenne. Celle-ci se tiendra à Bakou en Azerbaïdjan et donc les scientifiques souhaitent ouvrir les yeux des dirigeants politiques. La lutte contre le changement climatique n'est pas une question d'objectifs, de rapports ou de réunions mondiales, c'est une question de personnes. Ce sont les mots de Friederike Otto, qui est climatologue à l'Imperial College London et qui est cofondatrice de ce réseau dont je vous ai parlé, le WWA. Et sa consoeur d'ailleurs, Roop Singh, qui elle fait partie du Centre sur le climat et du Croissant Rouge, conclut: nous devons réduire les émissions de gaz à effet de serre. À chaque fraction de degré de réchauffement, nous assisterons à de nouveaux événements records qui pousseront les pays au bord du gouffre, quel que soit leur degré de préparation.
Changez le monde, vous êtes bien sympathique, mais on va déjà vous lever le matin. C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Mais le vrai monde, il va chez le coiffeur.
Des nouvelles du monde.
Quelques brèves lues sur le média en ligne Contre-Attaque, qui recense des actions de désarmement, comme on dit maintenant, entendez du sabotage, qui ont eu lieu en cette fin de mois d'octobre contre une entreprise, l'entreprise NGE, c'est un géant du BTP français, futur concessionnaire du projet d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. C'est le projet notamment qui cristallise pas mal de colère de ces militants écologistes radicaux. L'aménagement de cette route payante va artificialiser les terres agricoles et détruire les forêts sur 53 km de tracé, alors qu'une nationale relie déjà les deux villes et que des projets alternatifs sont d'ailleurs proposés. Ce groupe NGE est donc pour eux l'incarnation de la société mortifère et écocidaire, puisqu'il est aussi engagé dans des projets comme la LGV entre Bordeaux et Toulouse ou la liaison ferroviaire Lyon-Turin. Tous ces aménagements de territoire, rappelle cet article, sont contestés par les populations locales ou des luttes qui sont profondément enracinées et déterminées. Et si donc parfois les luttes administratives ou judiciaires sont trop longues pour les délais et que les travaux se font avant même d'avoir les résultats, certains décident de franchir quelques grillages et quelques lignes rouges. Par exemple, en banlieue lyonnaise, dans la ville de Villeurbanne, un engin de chantier a été pris pour cible sur un site donc de ce groupe NGE par un mystérieux GIEC, le gang d'intervention des écureuils en colère. La pelleteuse a été détruite par les flammes, mais un communiqué qui revendiquait l'attentat a été envoyé aux autorités. On y lisait donc les raisons de l'acte de sabotage, où étaient précisés notamment les gros chantiers dont je vous ai parlé avant. Et ils ont tenu à ajouter qu'ils visaient NGE en tant qu'entité et qu'ils ne visaient en aucun cas les travailleurs et travailleuses qui sont les premiers exposés à un travail difficile et trop souvent précaire. Nous vous invitons, disaient les signataires anonymes, à entrer en résistance si vous le pouvez et à ralentir les travaux par tous les moyens, allant de la rallonge de vos temps de pause, de votre syndicalisation jusqu'au sabotage de vos outils de travail. Fermez les guillemets. Une semaine plus tôt dans la nuit, d'ailleurs, du 20 au 21 octobre, c'était l'entreprise SPIE Batignolles à Toulouse, qui elle aussi est un des intervenants du chantier de la 69, qui avait fait l'objet de ce désarmement, à savoir 7 camions de cette société du BTP ont été brûlés, ne laissant que des épaves noircies et inutilisables après l'intervention des sapeurs-pompiers. Selon la presse locale, des tags contre la 69 ont été vus à proximité du site. La dépêche du Midi a en tout recensé donc ces différents sabotages liés à la lutte contre la 69 dans le Tarn, et on parle donc d'au moins 13 véhicules incendiés, donc 11 sur le site du chantier depuis le début des travaux. À la fin du mois d'août, un autre acte retentissant par incendie avait touché un coffrage destiné à couler la pile d'un pont sur le futur projet autoroutier à Saïx. D'autres actions de mobilisation contre les géants pétroliers, cette fois-ci, ont été organisées ce dernier week-end, notamment le 25 octobre à Paris. C'est le siège de Total qui a été repeint et sa baie vitrée brisée pour dénoncer une fois de plus cette multinationale pétrolière qui génère des profits monstrueux en dévastant la planète, on peut le dire. En Belgique, à Bruxelles exactement, c'est samedi et dimanche, une action de grande ampleur a visé la même entreprise. À savoir qu'un millier d'écologistes venus de toute l'Europe ont déclenché une action surprise pour bloquer le dépôt pétrolier de Total, donc de Feluy, c'est à côté de Bruxelles, et également le dépôt pétrolier d'Anvers. Ils s'y sont pris à l'aube le samedi. Des centaines de personnes ont approché donc ce dépôt pétrolier et en ont bloqué les accès, la route notamment avec des barricades, mais aussi la ligne de train où circulent les wagons citernes. Un blocage plutôt fructueux puisqu'il a tenu 2 jours dans une ambiance festive et musicale, nous dit-on, alors que le gouverneur local avait pris un arrêté pour interdire toute manifestation à proximité des sites. Pour le site de Total situé à Anvers, qui se situe dans le port, là en revanche la répression a été beaucoup plus brutale. Un groupe a en effet bloqué la route vers le dépôt, ralentissant les forces de l'ordre, et un autre a tenté de bloquer la raffinerie. Mais la police flamande avait des consignes de fermeté et a raflé la totalité des personnes présentes, donc 270 interpellations, y compris les journalistes et les observateurs présents sur place. Cette action avait été organisée par Code Rouge, et la dernière en date, qui s'était tenue aussi à Anvers en décembre 2023, visant l'aéroport cette fois-ci, s'était là aussi soldée par une arrestation massive de près de 500 personnes. A noter que ce week-end et ces dates coïncident presque avec le dixième triste anniversaire de la mort du jeune militant Rémi Fraisse, ce botaniste de 21 ans, tué par une grenade offensive lancée par un gendarme. C'était le 26 octobre 2014, lors d'actions de mobilisation contre la construction du barrage de Sivens, dans le Tarn. Cela faisait de lui le premier militant écologiste tué par les forces de l'ordre en France depuis 1977. À l'époque, c'était l'antinucléaire Vital Michalon qui était mort, lui aussi des suites d'une blessure de ce type de grenade offensive de désencerclement. Petit rappel du coup pour célébrer cet anniversaire de la lutte du barrage de Sivens. C'est dans les années 2000 que les pouvoirs publics souhaitaient construire une retenue artificielle sur le Tescou, une petite rivière serpentant entre Gaillac et Montauban. Un projet concernant essentiellement la constitution de réserves en eau, des réserves destinées à l'irrigation pour des productions de céréales, notamment du maïs. Si près de 85 exploitants agricoles se disaient intéressés au départ, vu qu'une partie d'entre eux avait déjà des solutions de stockage d'eau, le projet ne bénéficiait donc qu'à un très petit nombre d'exploitants, finalement, à peine une trentaine. Hein. C'est ce qu'a d'ailleurs établi par la suite un rapport d'expertise, rapport qui soulignait également combien l'option de ce barrage avait été choisie sans réelle analyse des solutions alternatives possibles. Et à savoir notamment que sur les 36 hectares sur lesquels se serait déroulé ce projet, se trouvait une zone humide boisée de plus de 11 hectares, avec 94 espèces protégées recensées. C'était une des dernières zones humides de cette importance qui existait dans le Tarn. Et c'est d'ailleurs pour cela que le CNPN, le Conseil supérieur de protection de la nature, avait donné 2 fois un avis défavorable à ce projet, notamment du fait de manquements sur la protection des espèces, et aussi parce qu'il jugeait que les mesures de compensation des zones naturelles détruites étaient irréalisables, inadéquates ou très hypothétiques. Ça, ce sont les mots du Conseil. Eh bien, tous ces arguments étaient justes, puisque le projet a été abandonné. Ça a été Ségolène Royal qui a validé cela en 2015. Des mesures furent d'ailleurs demandées par la suite pour tenter de remettre en état la zone, qui malheureusement avait malgré tout été saccagée et aplatie par les engins de chantier. La zone aujourd'hui s'étend sur 27 hectares, mais la grande majorité des espèces emblématiques qui s'y trouvaient avant les travaux n'y sont plus recensées. Quant à la mort de Rémi Fraisse, le gendarme auteur du lancer de la grenade, cette grenade qui a été d'ailleurs interdite depuis la fin 2014 dans l'arsenal policier, lui n'a jamais été condamné. Une enquête compliquée s'est tenue et la justice a ordonné le non-lieu le 9 janvier 2018. Une décision confirmée 2 ans plus tard en appel, puis en cassation en mars 2021. Et de son côté, la cour administrative d'appel a considéré qu'il y avait bien eu une faute commise par les forces de l'ordre et avait condamné l'État, pour ce préjudice moral, à verser quelques milliers d'euros aux proches du jeune Rémi Fraisse.
C'est pour ça.
Ça ne veut plus rien dire, hein ?
C'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'un petit remontant. Je vais demander un petit café, c'est pour ça.
pas de l'OV pour les vélos. C'est ainsi qu'on pourrait titrer cet article pioché dans les colonnes de Reporter. On y apprend que le budget 2025 prévoit en effet une baisse de 23% des crédits de la sécurité routière et la disparition pure et simple du plan vélo. Pour cela, il n'y a eu ni communiqué ni déclaration officielle, mais les inquiétudes étaient bel et bien justifiées et donc confirmées à la lecture des documents. Les 304 millions d'euros de ce plan vélo, des millions d'euros destinés à aider les collectivités pour notamment aménager des pistes cyclables, eh bien ces millions vont disparaître en 2025. Et les investissements qui étaient prévus en 2024, donc une année qui n'est pas encore finie, qui sont gelés depuis le mois de février, eux ne seront pas dégelés. Donc pas moyen de toucher à l'argent qui avait déjà été promis. C'est Christine Arrigui, la rapporteuse spéciale sur les questions de transport, qui a apporté hier une série d'amendements en commission des finances à l'Assemblée nationale pour tenter de faire machine arrière sur cette décision, avec elle côté des députés socialistes et insoumis, mais tous les amendements ont été rejetés. Cette députée écologiste tonne que c'est un scandale absolu, et elle rappelle les promesses d'un plan vélo à 2 milliards d'euros, prononcées par la première ministre Elisabeth Borne l'an dernier, qui s'évapore, c'est la parole politique qui est totalement décrédibilisée pour elle. Ironie d'ailleurs de la vie politique, en même moment, le ministre des Transports s'exprimait devant les sénateurs pour vanter les louanges du plan vélo que son gouvernement était en train d'enterrer de l'autre côté de Paris. Beaucoup a été fait par l'État pour sécuriser et encourager la pratique cyclable, déclamait ainsi François Durovray, c'est son nom, ministre des Transports. Les pistes cyclables aujourd'hui, elles sont en effet largement financées par les collectivités locales. C'est d'ailleurs ce petit argument qui est distillé par l'exécutif à ses interlocuteurs pour justifier l'abandon de ce plan vélo. C'est ce qu'explique en tout cas Thibaut Quéré, un directeur du plaidoyer pour la Fédération des usagers de la bicyclette. Il sortait d'une réunion à Matignon le 30 octobre et il explique qu'on leur avait dit que la mission de l'État était maintenant du ressort des collectivités, puisque l'État avait amorcé la pompe. Sous-entendu, débrouillez-vous pour trouver l'argent et continuer les pistes cyclables. Le même argument a été repris par le Rassemblement National, d'ailleurs, qui défendait un amendement de suppression définitive du plan vélo, qui est désormais de toute façon vidé de toute substance. Donc la proposition purement formelle a été rejetée par la Commission des Finances. Mais juste pour dire qu'ils ne se sont pas offusqués, en tout cas, de la disparition du plan vélo. Bien au contraire. Ils sont plutôt pour la voiture, visiblement. Ces millions exercent pourtant un levier décisif pour le financement des pistes cyclables. Ce sont souvent les départements qui portent les investissements structurants. Or, ils traversent une crise majeure. Ils n'ont plus de sous, explique tout simplement Jacques Baudrier, un élu communiste à la métropole de Paris. La perte des crédits de l'État risque d'entraîner un désengagement en cascade. C'est donc un autre coup de rabot aussi, d'ailleurs, à noter du côté de la sécurité routière. Parce que, en fait, le gouvernement prévoit une baisse de 23% des crédits de la sécurité routière, et celle-ci implique également notamment les questions de partage de ces voies entre vélos, routes et même les piétons. 26 millions d'euros manqueront donc l'année prochaine, alors que les associations de cyclistes demandent justement un sursaut d'urgence pour une meilleure prise en compte de la violence motorisée et un changement de comportement des automobilistes, notamment après le drame de la mort de Paul, ce cycliste de 27 ans écrasé par une voiture le 15 octobre, et d'autres décès qui ont été recensés depuis. François Durovray, le ministre des Transports, annonçait d'ailleurs le 21 octobre dernier le lancement d'une mission de 4 mois qui s'intitule « Contre les violences, protéger tous les usagers de la route ». Bien, avec cette énorme coupe dans les crédits, gageons qu'on n'ira pas bien loin. En tout cas, pour ce sentiment d'insécurité à vélo, c'est en France qu'il est le plus répandu, parmi les 11 pays européens qui ont été étudiés dans une enquête d'opinion. Seuls 59% des Français interrogés se sentent en sécurité sur les routes, là où les Néerlandais, eux, sont 93% à se sentir bien. Le nombre de cyclistes tués augmente de presque 20% entre 2019 et 2023. Au total, cette année-là, ça fait 221 cyclistes morts sur la route en France métropolitaine. Et un total de morts sur les routes de 3100 tués selon les services du gouvernement. Ça fait quand même pas mal de cyclistes. Les débats budgétaires doivent encore durer de longues semaines, vous le savez, et les retournements de situation ne sont pas exclus. Par exemple, c'est ainsi qu'un député Ensemble pour la République, donc un macroniste, lui prépare un amendement pour essayer de ressusciter ce plan vélo, il y croit. Mais il devra quand même réussir la prouesse de convaincre son propre groupe politique, qui ne semble pas a priori acquis à la cause de la bicyclette. Dans la stratégie nationale bas carbone, celle qui définit une trajectoire qui permettrait d'atteindre la neutralité carbone en 2050, la France compte normalement convertir 2,5 millions d'automobilistes actuels au vélo au quotidien. 4 chercheurs français ont calculé d'ailleurs les bénéfices indirects de cette hypothèse. Et bien notamment, ça permettrait d'éviter environ 5000 décès liés au manque d'exercice pour le côté santé, santé d'ici 2030. Et ben, figurez-vous que ces 5000 décès en moins, ça coûte environ 10 milliards d'euros de gains économiques associés. Ce qui est justement bah, ce qu'ils sont en train d'économiser sur le plan vélo. Cruelle ironie de l'actualité, a d'ailleurs commenté un des auteurs de cette étude sur LinkedIn en réaction de la disparition du plan vélo.
Laisse béton.
Pas de thon, mais de l'eau et cette fois-ci pas de mercure, mais de l'arsenic. On continue avec un rapport confidentiel de Nestlé qui a fuité dans les colonnes de Mediapart et qui révèle un risque élevé d'arsenic dans les eaux de Vittel. C'est un rapport daté de juin 2022, un rapport classé confidentiel hein, qui stipule qu'il ne doit surtout pas sortir et dans lequel on lit l'existence de 20 défaillances et non-respect de la réglementation tout sur ce qui porte sur la qualité des eaux et sur la pollution environnementale causée par l'activité du groupe et de ses usines. Alors en plus des traitements illégaux pour désinfecter ces eaux, dont on a déjà parlé plusieurs fois à l'antenne, ça c'est une fraude qui est estimée à plus de 3 milliards d'euros et qui est reconnue d'ailleurs par Nestlé, et bien parmi les dangers les plus élevés, les ingénieurs qui sont auteurs de ce rapport alertent sur un risque de concentration d'arsenic au-dessus de la limite de sécurité alimentaire, notamment pour les eaux commercialisées sous la marque Vittel. C'est entre mars et mai 2022, suite à un signalement qui dénonçait les pratiques frauduleuses de désinfection des eaux minérales, que les usines de Nestlé, situées dans les Vosges, ont fait l'objet d'une série de contrôles menés par les autorités sanitaires. Les inspecteurs ont par exemple découvert des bâtiments souterrains, des faux murs en inox et de multiples armoires qui servaient à dissimuler des traitements interdits des eaux minérales naturelles qui sont commercialisées dans les marques Contrex, Épar et Vittel. Donc, des traitements qui sont interdits puisque normalement ce sont des eaux naturelles et qui sous-entendent que les eaux ne sont pas très propres quand elles arrivent à l'embouteillement. Plusieurs services de l'État ont donc été missionnés sur cette question et au même moment, les ingénieurs de Nestlé, donc en interne, ont mené une inspection dont, disent-ils, le rapport ne doit être ni copié ni transmis à un tiers. C'est écrit d'ailleurs sur chaque page. Bon, visiblement, il y en a qui ont outrepassé ces consignes parce qu'ils estimaient que c'était suffisamment grave et le constat y est accablant. Les quatre ingénieurs chargés du rapport signalent des concentrations en arsenic bien au-delà des seuils réglementaires. L'arsenic, c'est un élément chimique naturellement présent dans l'eau hein, et dans la nature. Le tout, eh bien, c'est qu'il ne dépasse pas certaines limites. Sinon, il peut être dangereux, susceptible de provoquer notamment des cancers du poumon, de la vessie ou de la peau, les maladies cardiovasculaires aussi et du diabète. Et si on est enceinte, il peut avoir in utero donc, et sur les enfants des effets négatifs sur le développement cognitif. D'après l'OMS, la voie principale d'exposition et la plus toxique pour l'homme, c'est celle qui est liée à la contamination justement de l'eau de boisson ou des eaux utilisées quand on prépare la cuisine et qu'on arrose l'irrigation des cultures vivrières. Suivant donc les recommandations de l'OMS, le Code de la Santé fixe un seuil réglementaire d'arsenic dans les eaux destinées à être bues et à la consommation générale. Ce seuil, il est de 10 microgrammes par litre. Ça fait 10 millionièmes de grammes par litre. À ce niveau et au-delà, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité alimentaire de l'alimentation et de l'environnement, considère que l'excès de risque de cancer est significatif. Donc au-dessus des 10 microgrammes par litre, ce n'est pas acceptable pour la législation française. Eh bien, figurez-vous que les ingénieurs de Nestlé ont constaté dans leur rapport que la concentration en arsenic pouvait atteindre les 12 ou 13 microgrammes par litre, donc au-dessus de 10. Et cela dans le produit fini, hein, c'est-à-dire dans les bouteilles, dans les eaux sous la marque Vittel, et toutes celles qui proviennent notamment du forage Bonne Source. Cela en plus malgré des traitements mis en place selon la réglementation, car en effet, dans ces usines, pour éliminer l'arsenic des eaux, y compris pour les eaux minérales naturelles, on a le droit de mettre certains procédés en place avec demande au préalable du ministère de la Santé qui vérifie l'efficacité du traitement et sa non-dangerosité, on va dire. Ainsi, depuis 2012, Nestlé utilise un système de filtration de l'arsenic par des filtres au dioxyde de manganèse. Et bien, visiblement, ça ne fonctionne pas très bien. À côté de ce procédé, d'ailleurs, un traitement contre le fer, qui est lui aussi légal, contribue à réduire la teneur en arsenic des eaux. Mais là où voilà, peut-être le problème est pointé, c'est que la multinationale Nestlé a choisi de ne traiter qu'une partie de l'eau de ses forages. 60% de l'eau est donc traitée, 40% reste à l'état brut. Et dans les bouteilles, on fait un mélange des deux. Bien justement, c'est dans leur conclusion, les auteurs du rapport recommandent d'augmenter le pourcentage d'eau traitée et de renforcer le plan de surveillance, parce que visiblement, personne n'avait fait de mesure en sortie et une fois le mélange fait. Nestlé, d'ailleurs, n'a pas voulu répondre aux journalistes de Mediapart et de savoir s'ils avaient depuis appliqué les préconisations demandées par les ingénieurs. Et surtout, là où c'est un peu cocasse, c'est que Nestlé assure que ce qui a été lu dans ce rapport, donc à savoir le dépassement du seuil réglementaire des concentrations d'arsenic, eh bien, que c'est pas vrai, que c'est une situation entièrement hypothétique. Et ils expliquent que toutes les analyses montrent des résultats bien en dessous du seuil réglementaire. Donc pour ce leader de l'agroalimentaire, c'est clair, Mediapart a mal interprété le rapport des ingénieurs qui ne l'ont pas bien rédigé en anglais. Ils ont fait des fautes et ils ont oublié d'écrire au conditionnel. Bon, Mediapart veut bien étudier la réponse, mais quand même, ils trouvent que c'est de mauvaise foi puisqu'ils ont vu que dans les 19 autres constats de ce rapport, notamment tout ce qui était par rapport au traitement de désinfection, eh bien, c'est le même anglais qui est écrit avec pas plus de... Enfin, c'est exactement la même manière d'écrire. Et donc, ils expliquent que c'est très improbable que seul celui contenu concernant l'arsenic serait un scénario catastrophique, alors qu'il est rédigé exactement de la même manière. Les ingénieurs auraient, pour Nestlé en tout cas, signalé un risque inexistant. Et pour autant, Nestlé a été mis en demeure. On leur a demandé, montrez-nous les résultats réels des analyses. Eh bien, elles ont refusé de les communiquer. Elles déclarent pourtant faire une analyse quotidienne sur l'arsenic dans les usines des Vosges, mais a priori, sortir des résultats qui seraient conformes, ce serait la meilleure manière pour elle de se sortir de cette affaire, mais elle ne le fait pas. Du côté des instances gouvernementales, notamment l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, à qui n'était pas destiné ce rapport, puisque je vous rappelle qu'il était classé confidentiel, eh bien, ils ont eu la même réponse que Nestlé. Ils ont dit non, mais il s'agit d'un scénario. Et d'ailleurs, ils ont donné cette réponse alors même qu'eux n'avaient pas eu le document dans les mains. Donc c'est un peu étrange en tout cas pour les auteurs et les journalistes qui ont mené cette enquête. Ils rappellent que le manque d'inspection des agences régionales de santé sur la qualité des eaux, et cela dû notamment à un manque de moyens humains et financiers, et bien que tout cela a été justement soulevé par l'inspection générale des affaires sociales dans un rapport sur les eaux minérales naturelles et les autres sources qui s'est tenu suite à tous les signalements en dénonçant les traitements illégaux et les scandales de toutes ces bouteilles d'eau naturelle payé très cher et qui finalement se retrouvait avec les mêmes traitements et un peu la même composition que de l'eau du robinet. Le doute en tout cas est renforcé dans le cas de Nestlé sur le fait que pendant plus de 15 ans, le groupe, la multinationale, a fraudé sur les eaux minérales naturelles et ce sans que justement les ARS qui sont chargés des contrôles ne constatent de fraude ou en tout cas ne se donnent les moyens de le vérifier. Et ça, ce sont aussi des enquêtes précédentes de Mediapart qui l'ont démontré. Si vous le souhaitez, allez donc sur les pages du journal ou demandez les codes et vous pourrez avoir accès justement à toutes ces données.
Je sais pas ce qu'il y a, je suis rablabla,
rablabla.
J'en ai ras-le-bol, je me sens toute morte.
Il faut éliminer.
Voilà, un petit rappel des pubs que Vittel passait, nous inondait à la télé. Voilà, il s'agirait plutôt donc d'éliminer l'arsenic présent dans ces bouteilles. C'est ainsi que s'achèvent ces nouvelles du monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis voilà, un petit générique de fin et on sera bon. Allez, portez-vous bien.
Monsieur, des informations, il y en a plein. Par exemple, il y en a plein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution,
info@radioescapades.org.